Place Info.
Bien le bonsoir chez vous, bienvenue dans Les Informés. Avec une riche actualité ce soir qui se prête vraiment au débat. D'abord le G7 à Biarritz, les préparatifs, le dispositif de sécurité présenté cet après-midi par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. 13 000 forces de l'ordre mobilisées, la France regardée dans le monde entier et un enjeu important pour le ministre de l'Intérieur fragilisé par les gilets jaunes et autres crises plus ou moins bien gérées ces derniers mois. L'autre sujet majeur de l'actualité ce soir, c'est bien évidemment la crise politique italienne qui pourrait évidemment rejaillir d'ailleurs sur l'Union Européenne et qui sera forcément au menu des débats du G7, auquel participe bien sûr l'Italie. Va-t-on forcément vers des élections anticipées? Salvini peut-il prendre le pouvoir seul? La crise politique peut-elle entraîner une crise financière dans un pays où la dette publique est abyssale? Voilà de quoi occuper nos débatteurs de ce soir, que j'interrogerai aussi en fin d'émission sur la rentrée scolaire qui approche en France, c'est dans une dizaine de jours, et sur ce qu'elle coûte aux familles alors que les caisses d'allocations familiales ont versé aujourd'hui les allocations de rentrée. Avec moi dans ce studio ce soir pour débattre, Jérôme Ripoul, qui est dirigeant fondateur du cabinet de conseil en stratégie Confluence et co-président d'Opinion Valley. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir.
Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion chez Harris Interactive. Bonsoir.
Bonsoir.
Et puis Sophie Fay, journaliste à l'Obs. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Frédéric.
Merci d'être là tous les trois. Et on commence donc avec les préparatifs du G7 à Biarritz. Ça commence samedi. La présentation aujourd'hui du dispositif de sécurité par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui était déjà sur place.
L'ordre public doit être garanti pendant toute la durée du sommet. Il y a 10 ans, le sommet de l'OTAN à Strasbourg avait été marqué par des débordements violents. Prévention, contrôle, coopération avec les services de renseignement étrangers, nous mettons tout en œuvre pour éviter que de tels actes ne se reproduisent et pour assurer la sécurité et la protection des personnes et des biens. Je veux dire également qu'il n'est pas question d'empêcher la libre expression non violente des opinions. Un contre-sommet est prévu dans le secteur d'Urugne et Hendaye en France et d'Irun en Espagne. Il doit pouvoir se tenir librement, dans de bonnes conditions de sécurité et dans le respect de l'ordre public. Mais il doit être bien clair que nous ne tolérerons aucun débordement. S'ils surviennent, nous y répondrons.
Voilà le ministre Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, qui présentait tout à l'heure ce dispositif de sécurité. Déjà, c'est le retour en première ligne de monsieur Castaner après des mois délicats avec les Gilets jaunes. La mort de Steve à Nantes aussi le soir de la fête de la musique. On avait vu le premier ministre prendre la parole et le ministre de l'Intérieur être obligé de se taire en restant droit derrière lui. Il est sous le feu des projecteurs là, Jean-Daniel Lévy.
Ah oui, il est clairement sous le feu des projecteurs. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le G7, c'est un lieu où vont se rencontrer les principales pays du monde et notamment sur des questions qui sont des questions économiques. Et la première question qu'on va se poser, ça va pas être forcément ce que va être le G7 en tant que tel, mais est-ce que la sécurité va pouvoir être maintenue?
Non pas
particulièrement parce que ce G7 a lieu en France, mais parce qu'on sait que chaque G7 est un G7 sur lequel il y a des enjeux nets en matière de sécurité. On peut se rappeler de cela il y a quelques années, le G7 de Gênes, où il y avait eu des affrontements qui étaient des affrontements considérables et qui avaient eu un impact extrêmement fort, d'ailleurs, sur ce qu'on avait retenu au final de cette confrontation entre les différentes forces politiques d'un côté et puis les Black Blocs qui étaient notamment apparus à cette époque-là et dont on avait retenu essentiellement les aspects qui étaient les aspects de violence. Donc c'est vrai que le premier enjeu, effectivement, pour la France, c'est pas uniquement ce qui va ressortir de la manière dont les principaux dirigeants des forces politiques mondiales vont pouvoir s'exprimer les uns par rapport aux autres, mais déjà, est-ce que ceux-ci vont pouvoir parler, échanger, se confronter dans des situations qui apparaissent comme étant relativement sereines?
Sophie Fay, vous êtes d'accord avec ça? La sécurité, le bon déroulement de la manifestation, c'est aussi l'image du pays qui est en jeu?
C'est toujours l'image du pays, mais on ne pourra pas forcément reprocher à la France les difficultés si on voit ces mouvements des Black Blocs. Les mouvements des Black Blocs, par exemple, ils sont nés à... Qui sont très particulièrement redoutés par Christophe Castaner.
Oui, c'est de ça dont il parlait d'ailleurs quand voilà. Il ciblait le contre-sommet dans l'extrait qu'on vient d'entendre.
Exactement. Ils ont pris leur essor avec ces sommets, d'abord avec les réunions mondiales de l'OMC et puis ensuite avec les sommets du G8, déjà à l'époque où il y avait encore la Russie. Et on a eu systématiquement des échauffourées à Gênes, en Allemagne, à Évian. Et donc ça, c'est pas forcément à mettre... il n'est pas forcément responsable de tout, mais c'est vrai que
on peut imaginer que ses adversaires ne se gêneront pas pour s'engouffrer dans la brèche s'il y avait quelques failles.
C'est certain, mais il ne sera pas le premier, il ne sera pas le dernier dans cette catégorie-là. Donc, il est dans une situation particulièrement difficile, il cumule tous les risques. Et, donc, et donc, voilà, il ne faut pas forcément le juger là-dessus trop vite, quoi.
Jérôme Ripoll, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Sophie?
Oui, je pense qu'effectivement, ça serait extraordinaire si tout se passait magnifiquement bien. On le souhaite, bien entendu, mais ça, ça paraît difficile. Et ce qui est évident, c'est qu'il est sous les feux de l'actualité. C'est un ministre qui a été très contesté. On le voit, hein, qui a eu plusieurs fois, il aurait pu sauter. Il est toujours là dans la Macronie.
Peut-être parce qu'il n'y en a pas d'autres.
Oh, je pense pas, non, parce que...
C'est pas un ministre par défaut.
C'est pas un ministre par défaut, c'est un ministre qui est politique et qui est là pour des raisons politiques et qui reste pour des raisons politiques. C'est évident, parce que d'autres ministres que lui auraient sauté dans la même situation. Donc je pense qu'il est très soutenu par le président.
Mais quand il fait dans l'extrait qu'on vient d'entendre immédiatement allusion au contre-sommet et qu'il dit qu'évidemment vous avez le droit de discuter, de vous opposer, mais attention, on tolérera rien, c'est déjà pointé. Les projecteurs, braquer les projecteurs sur des gens qui peuvent se sentir un peu agressés, qui veulent juste manifester.
L'arrestation donne le temps de gens qui étaient susceptibles de mener des opérations aujourd'hui.
Absolument, donc, la personne qui est en garde à vue.
Il partait la ligne jaune, bon, après tout, c'est de bonne guerre pour le ministère de l'Intérieur.
On va continuer d'évoquer Christophe Castaner et ce dispositif de sécurité présenté. Il a ciblé trois menaces, on va les détailler. La première, on a commencé à en parler, ces débordements, mais aussi le terrorisme et la cybersécurité qui seront au centre, dit-il, de toute l'attention des forces de l'ordre mobilisées, avec le concours d'ailleurs de l'Espagne, puisque la frontière est tout près. On y revient juste après le rappel de l'info. Il est 20h10, Claire Flochel.
L'Italie se retrouve ce soir sans gouvernement et dans l'incertitude. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé sa démission après avoir prononcé un discours très dur contre Matteo Salvini, son ministre de l'Intérieur qui a appelé à la fin du gouvernement de coalition entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles. Deux policiers arrêtés à Hong Kong accusés d'avoir battu un homme sur un brancard d'hôpital. La scène a été filmée, un événement qui accentue encore un peu plus la tension dans le territoire. Les forces de l'ordre sont régulièrement accusées de brutalité par le mouvement pro-démocratie. En France, une personne est toujours en garde à vue. Quatre ont été remises en liberté. Elles ont été interpellées pour des appels sur les réseaux sociaux à attaquer un lieu d'hébergement des gendarmes lors du sommet du G7 à Biarritz. Un homme de 20 ans placé en garde à vue à Nantes pour tentative de meurtre sur un policier de la BAC la nuit dernière. Le policier a été blessé au cou, au couteau au niveau du front, mais ses jours ne sont pas en danger. Et puis des locaux des Restos du Cœur cambriolés dans le Morbihan. L'antenne dorée en est victime pour la deuxième fois. Plus de 200 kilos de marchandises volées, l'équivalent de 2 mois de distribution. Les bénévoles des Restos du Cœur se disent dépités.
France Info. 20h, 21h, les informés. Nicolas Creusel.
Avec Jérôme Ripoll, coprésident d'Opinion Valley, Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion chez Harris Interactive, et Sophie Fay, journaliste à l'hebdomadaire L'Obs. On parle depuis le début de l'émission du dispositif de sécurité du G7 à Biarritz. Le G7, on le rappelle, ça commence samedi et le dispositif a été présenté cet après-midi par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui a donc ciblé trois menaces. On va en parler. Parmi les trois, on a commencé à évoquer ces black blocs. Est-ce que, instruit de ce qu'on a vu à Paris sur les Champs-Élysées pendant ces samedis de gilets jaunes, on peut redouter vraiment une nouvelle, je veux dire un troisième set, si on prend une métaphore tennistique, peut-être Jean-Daniel Lévy.
En tout cas, l'histoire des G7 nous montre que oui, et surtout nous montre que c'est pas exactement la même nature, ou en tout cas
c'est plus violent,
et puis en fait il y a des populations, enfin en tout cas des black blocs qui viennent d'autres pays spécifiquement lors des G7 pour se déplacer, notamment parce qu'il y a cette exposition, on en parlait tout à l'heure, qui va se dérouler au niveau international. Et puis il y a peut-être également un post-gilet jaune, en fait, où on sait qu'on a beaucoup parlé en fait, des affrontements qui sont déroulés, notamment sur les Champs-Élysées, les affrontements, un certain nombre d'incendies qui ont pu être réalisés, on se rappelle notamment par exemple du Phuket, et qui ont donné une résonance et un éclat qui a été particulier. Donc probablement.
Et d'ailleurs, dans le monde entier, on a bien vu hier avec même Vladimir Poutine, qui s'est permis une petite leçon à Brégançon. Au chef de l'État sur le maintien de l'ordre.
Sur le maintien de l'ordre et sur les blessés qui avaient pu être orchestrés de la part des forces de l'ordre. Donc dans ce contexte-là, il y a un certain nombre d'éléments qui font que G7 d'un côté, plus suite des gilets jaunes et avec une focale au niveau international qui va être beaucoup plus importante, qui va forcément inciter des acteurs à venir autour d'un enjeu qui va être un enjeu principal, la confrontation avec les forces de police, la confrontation avec l'ordre établi, autour de l'idée on peut faire autre chose et on va combattre d'un point de vue général le capitalisme illustré et représenté par le G7.
Au nom d'un autre monde, on peut craindre de la violence.
Tout à fait. Le grand risque, c'est que les Gilets jaunes sont sur leur terrain, qui est cette contestation de la mondialisation libérale. Donc, c'est vraiment leur enjeu. Donc, on peut imaginer qu'ils vont vouloir faire une démonstration de force. Mais en même temps, il y a une autre tonalité dans ce G7, puisqu'on voit bien que les enjeux économiques sont un peu moins forts, finalement, que les enjeux diplomatiques, que les enjeux de relations internationales, que même les enjeux d'armement, puisqu'on voit cette nouvelle course à l'armement. Donc, le sens du sommet, qui devait peut-être être très économique, avec la taxe GAFA, avec les tensions commerciales, finalement, est un peu en train de se déplacer. Et si l'image que donnent les Black Blocs est uniquement la violence, ça risque d'entacher un peu leur discours sur le fond qu'on n'entend pas vraiment.
Si le sommet s'ouvre un peu à des questions aussi d'un monde sur le plan international, d'une vision mondiale, là pour le coup c'est peut-être la menace terroriste du coup, ceux qui contestent le monde occidental au sens large qui pourrait trouver écho, ça fait partie des trois menaces ciblées hein, par le ministre tout à l'heure, les débordements, la cybersécurité et le terrorisme, Jérôme Ripoll.
Oui, mais c'est une menace. Si menace maîtrisée il doit y avoir, c'est sans doute celle du terrorisme qui me semble être la mieux aujourd'hui maîtrisée par les pouvoirs publics.
Il y aura tellement de forces de l'ordre qu'on aura du mal à imaginer un kamikaze.
On est sur un niveau d'intervention des forces de l'ordre qui est assez élevé, hein, puisqu'il a été doublé par rapport à ce qu'il avait dit, mais on reste à un niveau qui avait été le même qu'à Deauville, hein, 13 000 et quelques membres des forces de l'ordre.
Avec un badge pour rentrer dans la ville.
Voilà,
et tout ça,
une ville qui est quand même quadrillée. La vraie question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on n'a pas suivi l'exemple de l'Allemagne ou de l'Angleterre qui, eux, avaient fait des sommets dans des endroits très, très reculés. Mmh. Notamment en Allemagne, il y en avait un qui a été fait dans les Alpes, où tout était bunkerisé. Donc, si vraiment la crainte terroriste était aussi forte, je pense que, pour le coup...
On ne se serait pas mis sur un des lieux les plus touristiques de la France en plein mois d'août.
Voilà, après, quant au choix de Biarritz, on pourrait y revenir,
on va y revenir sur le choix de Biarritz tout à l'heure dans les prochaines minutes, mais d'abord parlons un peu du fond quand même, si vous le voulez bien, de ce G7, parce qu'il y aura la crise italienne qui va s'inviter dans les débats, mais avant même cette crise italienne, on a un Donald Trump... ingérable.
Ah, l'affrontement sera à l'extérieur et à l'intérieur.
Ah bah oui, parce qu'alors Donald Trump qui fait tirer un missile de moyenne portée, premier test depuis la guerre froide à 4 jours d'un G7 auquel la Russie est exclue. On est quand même dans une configuration où chacun montre ses muscles, là, non, Sophie Fay?
Oui, on en a assez peu parlé, mais la presse britannique, par exemple, quand elle présente l'histoire de ce missile, parle de Troisième Guerre mondiale. Ils mettent ça en surtitre et ils présentent comme un missile hypersonique qui va plus vite que le son et surtout dont on ne peut pas prévoir la trajectoire, donc qui est beaucoup plus menaçant pour les ennemis potentiels des États-Unis que tous les précédents. Donc on rentre vraiment dans la course à l'armement au lendemain de la dénonciation du traité. Ça montre vraiment un monde totalement, totalement
alors,
instable.
La Russie dit attention à l'escalade et Trump répond c'est vous qui avez commencé en tirant d'autres missiles.
Enfin, voilà, et en même temps il vise aussi la Chine. Donc on est vraiment dans l'escalade et puis plus personne n'essaye de sauver les apparences et de faire semblant de maintenir une vitrine ou une paix de façade ou d'attendre quelque chose de ce G7 puisque même sur le... Il n'y aura plus de communiqué final.
Alors on nous dit d'ores et déjà en plus que Trump ne signera pas, donc ils n'ont pas décidé de faire une déclaration. Jean-Daniel Lévy, on est dans un G7 qui, finalement, où chacun va montrer ses muscles, et particulièrement peut-être Donald Trump. L'Iran, il n'est pas d'accord. Le climat, évidemment. Le missile, on en a parlé. En plus, il est en campagne électorale. La taxe GAFA, bien sûr, sur les géants du web.
Moi, je dirais, il est surtout en campagne électorale. Hein. Enfin,
ce qui l'intéresse, c'est d'être paraître aux yeux de ses électeurs potentiels comme le défenseur de l'Amérique.
D'une manière générale, en fait, chaque représentant politique, chaque dirigeant politique va pas uniquement penser à conclure un bon accord pour le G7, mais déjà la manière dont il peut défendre les intérêts de son pays et en tirer une forme de bénéfice d'opinion, voire un bénéfice électoral, ça c'est absolument certain. Mais on est dans une situation également où quand on regarde la situation de Donald Trump, pour la première fois, il se retrouve avec des enquêtes, même chez Fox News, qui est pourtant la chaîne qui normalement est censée le soutenir, qui sont plutôt mauvais le concernant, avec d'un côté des Américains qui vont considérer que la situation économique est plutôt bonne grâce à Donald Trump, mais qui ne sont pas forcément persuadés que c'est c'est uniquement du fait de son action que cette action économique est plutôt positive à leurs yeux. Donc il y a, même au sein de formations politiques ou même au sein de médias qui sont des médias plutôt en faveur de Donald Trump, un enjeu qui est un enjeu de remise en cause potentielle, un, de son leadership chez les Républicains, même si globalement celui-ci est relativement acté, mais même de capacité à pouvoir tirer l'Amérique d'un point de vue économique vers le haut, alors que ça avait été quand même le socle de la relation qu'il avait pu avoir avec une partie de son électorat. Donc l'idée, et on sait bien qu'en général aux États-Unis, quand on a un problème politique, on va déclarer une guerre, ou en tout cas on va montrer qu'il y a un enjeu qui est un enjeu de solidarité nationale à mettre en avant, et que là, peut-être que ce missile-là n'est pas étranger à la campagne électorale qui commence à se dessiner aux États-Unis.
Jérôme Ripoul, en tout cas, vous êtes d'accord qu'on ça démarre pas sous les meilleurs auspices?
Non, et moi la vraie question que je me pose, c'est est-ce que Emmanuel Macron va réussir à imposer son thème, et avec l'abandon du communiqué final, va pouvoir en faire quelque chose.
Son thème, c'est, rappelons-le, la planète, le climat, c'est ça, hein?
Les inégalités dans le monde. Donc je pense que c'est une forme de pied de nez quand même, parce que quand on est le G7 et qu'on a les pays les plus riches qui, soit dit en passant, notamment les États-Unis, se préoccupent assez peu finalement des problèmes d'inégalité, la thématique est assez audacieuse. Et alors là, qu'est-ce qu'elle va devenir avec entre les affrontements des uns et des autres?
Parce qu'on a en plus le Brexit au milieu de tout ça, hein, Boris Johnson très affaibli.
Oui, tout à fait. Trump veut apparemment parler de la Corée aussi avec le Japon, étant ses Kenzo Abe, enfin c'est très être un peu twisté.
Vous êtes d'accord, Sophie Fay, on n'est pas sûr d'avoir un G7 qui serve à quelque chose en fait.
Pas sûr, et c'était prévisible puisque avant même le G7, la réunion du G7 des ministres des Finances à Chantilly, il y avait une réunion préparatoire à Bercy, et un des experts qui était invité à cette réunion avait dit, mais on ne peut plus parler de G7, on ne peut parler que de G-2, puisque les deux principaux pays, les États-Unis et la Chine, ne veulent plus du multilatéralisme, les États-Unis en le disant ouvertement, et la Chine en essayant de le récupérer à son profit et de créer son propre système parallèle.
Bon, on continue de débattre de cette question de ce G7 qui se prépare, et puis de sa localisation aussi, parce que ça fait causer ça. Biarritz en plein mois d'août au milieu des vacanciers et des touristes. Juste après le rappel de l'info, il est 20h20, Claire Flochel.
Les résultats de l'autopsie de Simon Gauthier attendus demain en Italie. Il devrait permettre d'en savoir plus sur les circonstances de la mort du jeune randonneur français. Le corps de Simon a été retrouvé dans un ravin près de Policastro dans le sud de l'Italie dimanche, 9 jours après sa disparition. 13 200 policiers et gendarmes mobilisés pour le sommet du G7 dans 4 jours à Biarritz. Côté justice, le dispositif est également tentaculaire. Terme employé par le bâtonnier de Bayonne sur France Info, Teddy Vermotte prévoit au maximum 300 gardes à vue par jour, du jamais vu en France, selon lui. Les migrants de l'Open Arms vont enfin pouvoir débarquer sur l'île de Lampedusa. La justice italienne l'ordonne. Une centaine de personnes sont à bord depuis 3 semaines. Le procureur d'Agrigente ordonne aussi la mise sous séquestre du navire humanitaire. Du mieux sur l'île espagnole de Grande Canarie. L'incendie qui brûle la végétation depuis 4 jours est enfin en train de faiblir. Les vents sont moins forts. Les dégâts restent donc limités dans les zones riches en biodiversité. L'incendie a tout de même dévasté 12 000 hectares de végétation. Et puis pas de grand changement pour le 15 de France pour sa revanche contre l'Écosse samedi. Deuxième match de préparation à la Coupe du Monde de rugby pour les Bleus. Le sélectionneur Jacques Brunel fait revenir notamment le capitaine Guillaume Guirado.
France Info. 20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Avec Sophie Fay, journaliste à l'Obs, Jean-Daniel Lévy de Harris Interactive et Jérôme Ripoul d'Opinion Valley. Nous continuons d'évoquer ce G7 qui s'ouvre samedi à Biarritz. Avec donc cette question quand même du choix de la ville de Biarritz, quand on entend dire qu'on pourrait avoir 300 gardes à vue par jour dans un dispositif tentaculaire et inédit en France, on se demande si on n'aurait peut-être pas pu choisir un lieu un peu moins exposé en plein mois d'août, enfin à la fin août. Les biarros sont rentrés, les touristes sont nombreux et c'est encore les vacances. On nous annonce un centre-ville bouclé avec badge obligatoire pour circuler et accréditation préalable. Extrait d'un reportage que vous avez peut-être entendu ce matin sur France Info, signé Mathilde Himy.
On est en vacances et effectivement l'appartement se trouve en zone bleue et il nous faut un badge obligatoire.
On a rajouté 2 personnes, ce qui n'était pas prévu au départ il y a 1 mois. Du coup je viens récupérer les badges manquants.
J'ai perdu mes papiers hier soir, on va attendre, on verra bien ce qu'ils me disent. Si j'ai pas mon passe de laisser passer, je ne pourrais pas rentrer chez moi ni aller au boulot, quoi.
Voilà, donc ça c'est trois exemples de touristes ou de biarro obligés d'aller chercher un badge pour entrer. C'est une vraie question quand même, Jérôme Ripoll, le choix de Biarritz. Alors on nous dit que c'est parce qu'Emmanuel Macron a aimé la ville dans laquelle il a passé ses vacances en 2016.
Oui, bon, on fait pas des G8 en fonction de ses choix de vacances personnelles, j'allais dire, quand on est président de la République. Mais cela étant donné, c'est assez étonnant parce que quand on reprend la liste des G7 qui sont faits en France... Enfin, ils ont commencé à G5, puisque c'est Giscard qui a commencé. Le premier était fait à Rambouillet. Donc Rambouillet, c'est quand même assez maîtrisable aussi comme endroit. Il y en a eu un qui a été fait à Versailles, on a eu Puteaux, on a eu Lyon, on a eu Évian, Deauville. Et aujourd'hui, donc on finit,
À
Biarritz.
Au mois d'août, encore une fois.
Au mois d'août, voilà, en plein mois d'août. Alors, on imagine un peu la gêne que ça va occasionner auprès des vacanciers, auprès des commerçants.
Alors, certes, le manque à gagner aussi, d'ailleurs.
Oui, il y a 3000 participants, ou un peu plus, au G7. Mais on voit pas très bien, effectivement, pourquoi le choix de cette ville qui est quand même un front de mer. Donc il y a quand même une problématique d'accès à la mer. On a interdit effectivement les baignades, la navigation, etc. Et qui est finalement alors assez proche aussi de l'Espagne et sur lequel il peut y avoir des rassemblements effectivement des gens qui viennent pour soutenir les Black Blocs français. Enfin, c'est un peu étonnant comme choix. Et là Emmanuel Macron a peut-être mis un nouveau défi à son ministre de l'Intérieur.
Sophie, vous êtes du même avis que Jérôme Ripoll. C'est quand même un choix surprenant.
Oui et non, il y est allé en vacances, il a aimé cette ville, il a rencontré le maire, ils ont eu un bon contact, il a demandé au maire si c'était possible, le maire a eu envie de le faire.
Il n'allait pas lui dire non, et ça ne se refuse pas.
Il aurait pu dire non, après tout, il aurait pu dire si vraiment ça ne s'y prêtait pas, ça ne s'y prête pas du tout, on n'est pas en capacité d'accueillir autant de forces de l'ordre, on ne peut pas bloquer la ville à cette période, si vous le faisiez en septembre, ça serait peut-être plus facile. Et puis c'est un hommage à la ville, c'est quand même à Biarritz aussi, parce que c'est une très belle ville, parce qu'il y a ce grand hôtel qui vient d'être rénové parce que ça va faire aussi une opération de communication formidable pour le Pays Basque, pour les entreprises.
C'est l'argument du maire qui dit on va perdre pendant 3 jours du chiffre d'affaires incontestablement, les hôteliers, les restaurateurs, les commerces, les bars, tout ça. 10 000 personnes dans la ville au maximum dans certains quartiers contre 100 000 d'habitude. Mais le maire dit c'est une opération de publicité à l'échelle de la planète pour ma ville. Vous êtes d'accord, Jean-Daniel Lévy?
Oui. Et on serait tenté de dire, quelles que soient de toute façon les conditions de sécurité et les affrontements éventuels qui pourront se dérouler, Biarritz disposera d'un accroissement de l'autorité absolument considérable au niveau international. Et dans quelques mois ou dans quelques années, le fait de dire à Biarritz, ça évoquera quelque chose aux personnes qui n'en avaient pas forcément entendu parler par le passé, donc qui peuvent aider
à accroître l'autorité. On se souvient des villes où il y a eu la G7 ou la G8.
En tout cas, on se rappelle des villes qui ont été fortement médiatisées. D'une manière ou d'une autre, ça rentre un peu dans l'inconscient collectif, et lorsque le terme est à nouveau évoqué, donc il ne va pas venir forcément spontanément à l'esprit, mais s'il y a des campagnes de communication qui sont orchestrées, si on entend parler dans des cadres de guide opérateur ou autre, fait de la présence de Biarritz, ça évoquera quelque chose, et on sait qu'en général ça participe du fait de se dire voilà, ça peut être intéressant d'aller là-bas, et puis éventuellement se renseigner un petit peu plus sur ce que peuvent être les offres de services, etc. Donc on ne va pas forcément avoir une connaissance formidable de la part de l'ensemble des Américains, par exemple, de ce qu'est Biarritz,
son situation, etc. Ils ont déjà du mal à citer la France sur le globe, ils citent Biarritz.
Et même, peut-être même Paris, mais en tout cas, mais ce qui est certain, c'est que ça participe justement d'une représentation de la croissance de la notoriété d'un terme. Et on sait que dans les concurrences internationales, notamment dans les opérations qui sont des opérations de tourisme, ça participe aussi du fait d'accroître l'attractivité. Donc effectivement, le pari, c'est le pari d'un accroissement de la notoriété au détriment peut-être effectivement d'une effectivité immédiate en matière de chiffre d'affaires de la part des commerçants.
On sacrifie 3 jours au cœur de l'été pour des retombées plus loin. Vous êtes d'accord?
Oui, alors il faudrait quand même pas que, comme Gênes, la ville soit trop associée à des débordements, parce que Gênes, on s'en souvient pour de mauvaises raisons, et pas que, malheureusement, le G7. D'autre part, moi, je pense que la capacité touristique de Biarritz, elle est quand même déjà très, très, très entamée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une capacité de développement
énorme. Supplémentaire.
Voilà, moi, je ne crois pas beaucoup quand même à la capacité de le Pays Basque qui est assez développé, mais enfin bon, tant mieux. Il y a peut-être d'autres zones qui auraient mérité de l'être, mais bon, pourquoi pas. Effectivement, ça va contribuer à la notoriété de Biarritz. Est-ce que c'est Biarritz qui, en matière touristique, avait le plus besoin d'un coup de pouce? Je n'en suis pas persuadé. C'est quand même une ville qui a été honorée par l'impératrice Eugénie, où Édouard VII passait ses vacances. Enfin, je veux dire, bon, c'est quand même... Il y a a pas de problème aujourd'hui d'occupation touristique à Biarritz, me semble-t-il. Mais bon.
Et Sophie Fay, ils vont peut-être aller tous voir une corrida alors.
J'espère qu'on va échapper à cette polémique quand même.
Je plaisante parce que je me suis fait allusion à
la candidature de
Didier Guillaume, oui. Amateur de corrida, qu'on a connu dans la Drôme et qui aujourd'hui brille la mairie de Biarritz. Plus sérieusement, il y a une interrogation sur ce choix de la ville, mais finalement, ça peut participer à son rayonnement.
Ça participe à son rayonnement et compte tenu de l'importance du tourisme pour l'économie française, de l'importance que la France veut donner au tourisme et de l'attraction qu'elle veut avoir, la France ne pouvait peut-être pas se permettre autant que l'Allemagne de choisir un endroit reculé. C'est vraiment, on en fait une vitrine.
Ans,
et puis c'est aussi une tradition, c'est aussi une tradition française d'être dans des beaux lieux, d'offrir de belles images, de même que c'est une tradition italienne.
Ok, eh ben écoutez, on verra comment tout cela va se préparer d'ici samedi et l'ouverture et comment évidemment cela se passera. On n'a pas fini d'en reparler d'ici la fin de la semaine sur France Info bien sûr. Et dans les informés, on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission juste après les infos et la météo.
France Info Météo avec Gauthier, séjour, salon, chambre et dressing. Le mobilier pour toute la maison à retrouver dans nos magasins et sur gauthier.fr.
Quel temps pour demain, Élodie Calac?
Un temps calme et ensoleillé. Demain, le réveil se fera sous le soleil quasiment partout. Juste quelques brouillards ou nuages bas vite oubliés vers le nord de la Seine, le nord-est ou la Côte d'Azur. Il fera assez frais, surtout vers la Bretagne, la Normandie, le nord de la Seine, avec 7 à 10 degrés, parfois un peu moins, 10 à 15 degrés ailleurs, jusqu'à 22 pour la Méditerranée. L'après-midi, du soleil au menu. Il faudra juste composer avec quelques nuages élevés des Landes et du Pays Basque vers la Méditerranée. Et puis sur les Alpes, jusque sur les hauteurs provençales, ça deviendra instable avec des averses, des orages, un petit risque orageux aussi sur la montagne Corse. Ça se réchauffera avec 20 degrés au Havre, 22 à Lille et à Brest, 24 à Paris, 25 degrés à Angers, Strasbourg, Lyon, 29 à Bordeaux, 31 degrés à Martigues et 32 degrés à Montpellier. Et ce n'est pas fini puisque les températures vont continuer à monter jusqu'au week-end.
Merci beaucoup Élodie Calac de Météo France. Les informés de retour dans 3 minutes sur France Info, juste après toute l'actu du jour. Il est 20h30.
France Info.
De poids, ouvrez l'info.
L'info en 3 minutes, Emmanuel Langlois.
J-4 avant le sommet du G7 à Biarritz. À partir de samedi, gendarmes et policiers seront très nombreux pour assurer la sécurité de ce sommet international. Ils seront 13 200 représentants des forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est venu détailler le dispositif cet après-midi lors d'une conférence de presse au Pays Basque avec un message de fermeté, Stéphane Père.
Un discours de fermeté et des moyens majeurs déployés pour assurer la sécurité de ce G7, des délégations mais aussi des habitants et des commerçants concernés par les manifestations. Au total, Christophe Castaner a précisé que plus de 13 200 policiers et gendarmes, dont 44 compagnies de CRS et une cinquantaine d'escadrons de gendarmes mobiles, sont appelés durant ce sommet à tenir la zone entre Bayonne, Biarritz et Hendaye, le tout épaulé par les forces de sécurité espagnoles mais aussi les forces françaises militaires. Pour assurer la sécurité des côtes et de la mer, la principale menace, Christophe Castaner l'a rappelé, n'est pas terroriste, pas d'alerte terroriste à ce stade. Elle est plutôt portée par les risques de débordement liés à la mouvance de l'ultra-gauche et aux militants violents, possiblement infiltrés avec les altermondialistes qui pourtant appellent à la non-violence durant leur contre-sommet. Les manifestations à Irun, à Hendaye seront tolérées, protégées même par les forces de l'ordre, mais nous ne tolérerons aucun débordement, a dit Christophe Castaner. S'ils surviennent, nous y répondrons.
Stéphane Père, et puis une personne est toujours en garde à vue ce soir après avoir proféré des menaces sur les réseaux sociaux concernant les centres d'hébergement des forces de l'ordre durant ce sommet du G7. L'administration fiscale saisit la justice après le piratage fin juin de 2000 messageries électroniques personnelles de contribuables sur la plateforme impots.gouv.fr. Certains ont vu leurs déclarations de revenus modifiées par les hackers ainsi que leurs coordonnées bancaires. Mais selon Bercy, il n'y a pas d'impact fiscal. Les personnes concernées ont été prévenues individuellement. Des animaux entassés dans des cages métalliques minuscules, certains les pattes blessées par le sol grillagé, d'autres morts au milieu des vivants. L'association L214 publie de nouvelles images chocs, celles d'un élevage de 8000 lapins dans les Deux-Sèvres. D'après l'association, les animaux sont aussi traités aux antibiotiques et aux hormones pour optimiser l'insémination artificielle. En Italie, la fin du premier gouvernement populiste entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles. Le premier ministre Giuseppe Conte a annoncé sa démission. Il la présentera officiellement au président président de la République après avoir accusé le leader d'extrême droite, Matteo Salvini, d'avoir été irresponsable en déclenchant cette crise politique majeure dans la péninsule. Un homme abattu par la police au Brésil. Depuis 4 heures environ, il retenait en otage une trentaine de personnes à bord d'un bus sur l'un des principaux ponts de Rio de Janeiro. Elle dénonce le risque d'une escalade des tensions militaires et d'une relance de la course aux armements. La Russie et la Chine condamnent fermement le premier essai par les États-Unis d'un missile de portée intermédiaire depuis la guerre froide. C'était dimanche au large de la Californie. Il est 20h33 sur France Info. Les informés, ça continue.
Merci beaucoup Emmanuel Langlois.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Avec Sophie Fay, journaliste à l'Obs, Jean-Daniel Lévy, directeur du département politique et opinion chez Harris Interactive, et Jérôme Ripoul, dirigeant fondateur du cabinet de conseil en stratégie Confluence et coprésident d'Opinion Valley. On va évoquer maintenant, après avoir longuement évoqué le G7 à Biarritz qui se prépare et qui commence samedi, on va parler de la situation politique en Italie, de cette crise qui secoue le pays. La coalition entre le mouvement populiste 5 étoiles et la Ligue, parti d'extrême droite de Matteo Salvini, a explosé. La Ligue avait déposé une motion de censure. Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, a annoncé cet après-midi au Sénat qu'il allait remettre sa démission au président de la République et son discours a pris la forme d'un réquisitoire contre Salvini, son ministre de l'Intérieur.
Cette crise interrompt prématurément un gouvernement qui, en un an, avait produit beaucoup de résultats. Elle fait courir de graves risques à notre pays. Une crise en plein mois d'août, avec des élections anticipées probables à l'automne, font que ce sera hautement improbable que nous puissions adopter notre loi de finances dans les temps. J'ajoute que cette crise intervient à un moment délicat dans nos relations avec l'Union européenne. L'Italie court le risque de participer à ces discussions dans une position de grande faiblesse. C'est pour tout cela que je dis que le ministre de l'Intérieur a suivi ses intérêts personnels et ceux de son parti.
Voilà, Giuseppe Conte, le chef du gouvernement italien devant les sénateurs et devant les protestations d'ailleurs de certains sénateurs cet après-midi. Ce divorce, c'était inéluctable, Jérôme Ripoul.
Oui, alors déjà, l'attelage était un peu brinque-ballant. Oui. Au départ, il faut quand même se souvenir que Salvini escomptait une alliance avec Forza Italia.
Berlusconi.
Il a changé de cheval et il est passé effectivement au mouvement 5 étoiles, pardon. Que le président Mattarella, qui est finalement quelqu'un qui prend une importance extraordinaire, alors que le président italien est plutôt symbolique,
il va devoir trancher.
Il va devoir à nouveau trancher. C'était inévitable parce que le réquisitoire qu'a fait le Premier ministre était extrêmement sévère. On voit rarement ça, quand même, à l'issue d'un an de gouvernement.
Oui, mais en même temps, on voit rarement un ministre de l'Intérieur demander à son propre parti de déposer une motion de censure contre son propre gouvernement.
C'est vrai qu'on rentre dans une politique, dans la science-fiction, et la réalité dépasse toute la fiction. Ça, c'est exact.
Sophie Fay.
Le Premier ministre, M. Conte, a eu des mots extrêmement durs pour Matteo Salvini. Il a dit, par exemple, « Cher Matteo, votre conception du gouvernement m'inquiète. Nous n'avons pas besoin d'hommes avec les pleins pouvoirs, mais de dirigeants ayant le sens des institutions. » Les pleins pouvoirs, c'est une référence.
C'est Mussolini.
Immédiate.
On pense à ça à immédiatement.
Mussolini. Et donc, c'était absolument terrible. Ce qui est complètement étonnant, c'est le retournement de situation, parce que après les élections européennes, le grand vainqueur, c'était vraiment Matteo Salvini. Il avait vraiment un boulevard devant lui pour réussir les prochaines élections, pour avoir un gouvernement pour lequel il n'aurait peut-être pas besoin d'allier ou juste de force d'appoint.
Il a précipité les choses, du coup.
Il a à la fois précipité et perdu trop de temps. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas fait immédiatement après les élections européennes. Résultat, il a laissé traîner le calendrier. Il est apparu comme un amateur. Il a pensé qu'il suffisait qu'il parle pour que tout se déclenche, alors qu'il y a quand même une constitution, il y a des règles à suivre, il y a ce que le président de la République a rappelé et a fait. Il a fait respecter toutes les règles. Il croyait qu'il pouvait agir tout seul, comme justement un petit apprenti dictateur. Et puis finalement, tout son poids politique politique, son capital politique s'est un peu délité pendant l'été et il apparaît un peu comme un perdant aujourd'hui, en tout cas d'après notre correspondante à Rome.
Ah oui, parce que c'est vrai qu'on nous dit en tout cas, nous de Vue de France, qu'il est encore extrêmement populaire. On le voit se faire prendre en photo sur les plages, faire des selfies avec les vacanciers, qui joue là-dessus justement, qui est le seul homme politique italien qui trouverait grâce aux yeux de l'électorat italien, Jean-Daniel.
En tout cas, il y a plusieurs aspects. Effectivement, en fait, Sophie Fay l'a rappelé tout à l'heure, quand on prend les dernières élections européennes, c'est clairement la force politique qui a tiré le plus grand bénéfice du résultat des élections, 34% en faveur de cette force politique. Largement d'ailleurs, le mouvement 5 étoiles qui était en coalition avec eux, et donc il y avait effectivement une inversion des résultats. Et que quand on regardait...
Il faut se rappeler effectivement que... Ce scrutin précédent, c'est 5 étoiles la force majeure et qui avait besoin d'alliance et qui s'est tourné vers Salvini.
Oui,
et c'était en fait, le populiste de gauche qui avait besoin d'un appui populiste de droite.
C'est ça. Et Salvini a réussi, et sa force politique, à mettre la focale sur les questions qui étaient les questions notamment migratoires et de sécurité et très peu sur les questions d'un point de vue économique. Et quand on regarde d'ailleurs la répartition des portefeuilles au sein du gouvernement italien, la gestion économique est plus liée à la force politique, le mouvement 5 étoiles, et les aspects en matière de sécurité, plus liés justement à la force politique d'extrême droite. Donc ils ont réussi à gagner une forme de bataille des enjeux des différentes élections, et donc d'en tirer un bénéfice, qui est un bénéfice électoral, en l'alliant d'ailleurs avec les dimensions européennes. Et que quand on regarde par ailleurs la manière dont il pouvait y avoir un jugement de la part des différents types d'électorats, les électeurs qui étaient électeurs d'extrême droite étaient les plus satisfaits globalement de l'action et de la présence de leurs forces politiques au sein du gouvernement. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que entre le rapport de force d'opinion et le rapport de force politique d'un côté et les conséquences concrètes qui se dérouleront en matière de constitution de gouvernement,
que va-t-il se passer,
il y aura peut-être un écart qui montrera que quelle que soit la situation d'opinion, elle ne se traduira peut-être pas forcément mécaniquement d'un point de vue de force coalition électorale qui se dérouleront prochainement.
Quelques secondes, Jérôme Ripoll, pour
non, je suis d'accord, je reviendrai parce que je voudrais analyser effectivement la capacité de Salvini à être passé d'un leader séparatiste à un grand leader finalement patriote. Ça, c'est très intéressant de voir comment il a fait cette mue.
Oui. Eh bien, je vous propose de vous donner la parole juste après le rappel de l'info, puisqu'il est déjà quasiment 20h40. On va retrouver Claire Flochel.
À 4 jours du G7, Christophe Castaner estime qu'il y a 3 menaces principales. La menace terroriste, la cybermenace et les risques de débordement. Le ministre de l'Intérieur annonce le déploiement de 13 200 policiers et gendarmes ce week-end à Biarritz. Un homme mis en examen pour assassinat à Annecy en Haute-Savoie. Il a été interpellé dimanche et transporté le corps de sa femme dans une valise dans le coffre de sa voiture. C'est le 93e féminicide en France depuis le début de l'année selon un collectif. Au début de l'été, le site des impôts avait croulé sous les demandes de renouvellement de mots de passe. Le fisc donne des chiffres ce soir. Au final, ce sont 2000 contribuables français qui se sont fait pirater leurs espaces personnels. Le comité de suivi sur les engagements de General Electric Belfort se tiendra au début du mois prochain, annonce du ministre de l'Économie Bruno Le Maire. L'entreprise de sidérurgie a prévu de supprimer 1050 emplois en France, dont 800 sur le site de Belfort. Paul Gabriel, incertain pour le mondial de rugby dans un mois au Japon. Le deuxième ligne du 15 de France écope de 6 semaines de suspension après un dangereux déblayage contre l'Écosse samedi dernier.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
On continue de parler de la situation politique en Italie et de cette coalition gouvernementale qui a explosé officiellement cet après-midi avec Jean-Daniel Lévy d'Aris Interactive, Sophie Fay de l'Obs et Jérôme Ripoll d'Opinion Valley. Jérôme Ripoll, vous évoquiez la mue avant les infos, de Matteo Salvini.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que la Ligue du Nord, c'est un mouvement séparatiste qui a été créé par Umberto Bossi, qui était aussi une figure italienne qui aujourd'hui est reléguée au Sénat, mais qui a été une grande figure. Et quand Salvini prend la Ligue du Nord, la Ligue Lombarde, c'est en 2013 ou 2014, le mouvement est à genoux. Et le mouvement est séparatiste. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il est séparatiste aussi. Qu'est-ce qu'il fait ?
Il devient nationaliste.
Il devient nationaliste,
c'est
exactement.
Ça qui est fou.
Et ce qui est intéressant, c'est que... Alors, ça correspond sans doute profondément à ce qu'il est, parce que ce que vous disiez, Sophie, est vrai. C'est un petit dictateur. Et il ne récuse pas, d'ailleurs, le fait d'être comparé à Mussolini. Ça, c'est pour lui, c'est quasiment un honneur. Bon, ce qui montre son niveau des complexions. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir. Alors là, c'est plutôt le communicant qui parle. C'est comment il a travaillé son réseau social. Aujourd'hui, Salvini, c'est 3,6 millions de personnes qui le suivent sur Facebook. C'est le premier dirigeant européen sur les réseaux sociaux. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui, alors il a une équipe, hein, il est un peu comme Trump, mais il n'est pas que comme Trump, il a une équipe derrière lui. Et il a un gars qui s'appelle Luca Morisi, qui se définit sur son compte Twitter comme un digital philosopher ou un social mégaphone, et qui en fait travaille toute sa réputation sur Facebook. En clair, ils ont créé un logiciel qui s'appelle La Bestia, La Bête, qui est capable de traiter des données sur les réseaux sociaux et de dire sur quel sujet doit se positionner Salvini.
Et comment il doit se positionner
Donc oui, le côté, je mange la charcuterie, j'ai un crucifix dans ma photo, je vais boire un coup la bière avec un t-shirt où on me voit un peu bon, en tripotant, etc. Tout ça
c'est calculé.
C'est travaillé. Alors, c'est extrêmement intéressant.
C'est vrai que la question maintenant qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va réussir son pari de provoquer des élections qu'il pourrait gagner, ou est-ce qu'on va assister à un tir de barrage des autres partis avec des alliances improbables du parti démocrate de centre-gauche de Matteo Renzi, par exemple, qui pourrait se réconcilier avec 5 étoiles pour faire barrage à des élections. On est dans cet entre-deux, là, Sophie.
On est dans l'entre-deux, on ne sait absolument pas comment ça va se terminer. Là, c'est vraiment difficile de faire des pronostics.
Mais cette alliance, elle serait baroque, quand même,
Elle serait complètement baroque.
Tout sauf Salvini.
Mais ça peut... Tout est possible. Mmh. Et puis surtout, la force de Salvini, qui a complètement misé sur son image, sur le lien direct aux électeurs, sur les réseaux sociaux, c'est un peu sa faiblesse, puisqu'il a un peu sous-estimé ce contexte politique et ce jeu d'alliance et les ambitions des uns et des autres, y compris de Giuseppe Conte, qui paraissait un peu fade, finalement se révèle lui aussi très, très volontaire.
C'est vrai que quand il a été choisi, il fallait que ce soit quelqu'un qui fasse pas d'ombre à Salvini ni à Luigi Di Maio. Ils ont tergiversé un moment, on disait c'est un pantin cet après-midi, c'est pas un pantin qu'on a entendu au Sénat, Jean-Daniel Lévy.
Non, clairement, enfin, déjà, un, il parle, deux, il parle avec verve, même, ça vaut le coup de le regarder, pas uniquement de l'écouter, parce que la gestuelle est extrêmement manifeste dans son expression, et trois, il a un propos qui est un propos terriblement politique et qui n'est pas un propos uniquement personnel. Effectivement, les références implicites au misogynisme, etc., sont assez nettes. Bon, après, je crois que Salvini avait fait référence également à une marge de soutien à son égard, donc ça renvoyait également à d'autres époques qu'on avait connues dans les années 30. Ce qui va vraiment être intéressant, ça va être déjà parce que non seulement il va y avoir une alliance des contraires, mais même qui peut être même poussée encore plus loin que ça, parce qu'on parle même de la formation de Berlusconi qui pourrait faire cet arc.
Mais justement, comment ça peut être perçu par les Italiens? Parce qu'on nous explique que les Italiens n'aiment pas les politiques, il n'y a que Salvini qui à peu près trouvera ça à leurs yeux, et là on aurait ce tir de barrage pour empêcher les Italiens de retourner aux urnes. On peut se demander s'ils accepteraient cette situation.
Déjà, un, il faudrait que ça se produise, et deux, voir en fait comment ça pourrait être justifié. Ce qui est assez certain, c'est que sur un de sujets, il y a les enjeux migratoires, il y a l'enjeu également de la ligne à grande vitesse Lyon-Turin, si je ne me trompe pas, en fait, qui suscite de vrais, forts débats au sein de
l'Italie. Il y avait les pour et les contre.
Il y avait les pour et les contre qui étaient réunis au sein du gouvernement. Donc au bout d'un moment, quand il s'agit de trancher, effectivement, le en même temps n'est pas forcément facile à pouvoir trouver, et qui va être aussi un des enjeux, et puis également la situation économique, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé en fait du budget et qui doit être voté prochainement.
D'ailleurs, le Premier ministre a dit qu'il était très inquiet sur le fait qu'il ne puisse pas être voté s'il y avait des élections anticipées en septembre.
Et on peut rappeler que l'an dernier, il était passé après une forte confrontation avec Bruxelles, et que là, déjà cette année, pour la première fois, Bruxelles avait même anticipé en disant « attention, on va être extrêmement attentif avec des marchés qui plus est, qui sont, on va dire, assez nets, et des taux d'intérêt pour l'Italie qui sont assez élevés, avec des conséquences notamment pour les Italiens en matière de pouvoir d'achat et en matière d'emploi. Donc il y a tous ces aspects-là qui peuvent jouer. Donc c'est pas uniquement la configuration électorale qui va jouer, mais ça va être également autour de quels enjeux il peut être marqué et quelles peuvent être les conséquences. Mais sachant que sur de nombreux sujets, malgré tout, sur de nombreux sujets, c'est pas uniquement Salvini personnellement qui a une bonne cote d'opinion, c'est que les sujets qu'il peut être amené à traiter et les thématiques qu'il peut être amené à aborder recueillent, si ce n'est un assentiment majoritaire, en tout cas qui est assez important parmi l'électorat italien.
Salvini qui promettait de baisser drastiquement les impôts alors qu'on a une dette publique abyssale en Italie, la difficulté de rentrer dans les clous pour Bruxelles, on touche là aussi à l'influence que la situation politique italienne peut avoir sur l'Union européenne, Sophie Fay.
Oui.
Ça va aller au-delà de nos frontières, des frontières italiennes, je veux dire.
C'est assez compliqué pour l'instant parce que on voit quand même que l'Italie a un tel poids dans l'Europe et dans la zone euro que personne n'imagine qu'elle puisse vraiment quitter l'euro. Et donc, pour l'instant, les marchés financiers n'ont pas l'air de croire qu'on va vers la catastrophe et tout le monde pense qu'on trouvera une solution. Et ce qui est très frappant quand on va en Italie et quand on parle avec les Italiens, c'est à la fois qu'effectivement, ils sont très inquiets sur ces questions migratoires et soutiennent Salvini, mais en même temps, ils disent aussi il y a quelque chose qui ne va pas en Europe, c'est cette alliance Macron-Merkel. Ils font le geste avec le doigt en montrant Macron-Merkel et en montrant qu'ils se sentent exclus et qu'ils se sentent rejetés par l'Europe et qu'ils sentent qu'on les a pas aidés.
Pour un pays qui est profondément européen, la construction européenne, elle est née par les Italiens, la démocratie chrétienne italienne.
Et on sent qu'ils attendent un geste de l'Europe, qu'ils attendent que la France et l'Allemagne les réintègrent dans le club, ce qui est difficile avec Salvini, mais qui sera peut-être possible avec son successeur.
C'est ça, finalement. Est-ce que l'Europe ne récolte pas les fruits de ce qu'elle a semé ? C'est-à-dire, à force de mettre des politiques de maîtrise de dépenses publiques, vous avez un peuple qui se sent étouffé et qui finit par exploser. On l'a vu en Grèce,
l'extrême droite. On ne peut pas dire que les Italiens, d'ailleurs comme les Grecs, soient un pays où la fiscalité pèse de telle manière qu'ils soient tenus à la gorge. Moi, je pense que malheureusement, tendanciellement, Salvini est le vainqueur de cette situation, tant au niveau européen qu'italien, parce que globalement, si Mattarella et si les oppositions arrivent à s'unir, c'est reculer pour mieux sauter. Et à un moment, effectivement, le côté ils se sont arrangés pour éviter qu'ils arrivent au pouvoir.
Bon, un jour, il y aura une élection, de toute façon, ça voulait dire.
Et là, ça risque de revenir en boomerang, et c'est très mauvais. Et puis, il faut pas oublier que tendanciellement, on a quand même, alors ça, c'est pas des dictatures, mais les dictatures marchent bien en groupe, et en ce moment, c'est peut-être des démocratures, mais on a quand même Orban d'un côté, on a Boris Johnson de l'autre, qui finalement, ça paraît incroyable, mais est arrivé au pouvoir, alors certes dans des conditions partisanes, mais peu importe. Et je pense que lui, tendanciellement, il a qu'à retirer les marrons du feu. Alors ça viendra peut-être un peu plus tard que ce qu'il avait prévu, mais je crois que l'opinion publique italienne est malheureusement assez mûre pour accueillir Salvini comme leader.
Sophie Fay, d'accord ?
C'est pas l'opinion de notre correspondante en Italie, donc
c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure.
Je lui laisse,
effectivement.
Je lui laisse le mot de la fin.
C'est vrai.
Voilà, elle a écrit un article sur le site pourquoi Matteo Salvini est en train de perdre son pari. Et elle dit, il avait gagné le billet gagnant à la loterie et il est en train de tout perdre.
Très intéressant, effectivement, ce contrepoint peut-être ou un point décalé qui peut permettre de nous éclairer autrement. On en a fini sur l'Italie, vous êtes d'accord ?
Très bien.
Alors on change de sujet juste après le rappel de l'info. On va parler de la rentrée scolaire et du coût de la rentrée scolaire en France, cette fois bien sûr. Il est 20h50, le rappel de l'info, Claire Flochel.
Un sommet sous haute sécurité, le ministre de l'Intérieur à Biarritz cet après-midi. 4 jours avant le sommet du G7, Christophe Castaner annonce 13 200 policiers et gendarmes mobilisés. Ils seront appuyés également par les forces de l'ordre déployées côté espagnol. Et ce soir, une personne est toujours en garde à vue, interpellée ce matin pour des appels sur les réseaux sociaux à attaquer un lieu d'hébergement des gendarmes lors du sommet du G7. Une veillée de prière en hommage à Simon Gauthier ce soir dans l'une des églises de San Giovanni à Piro en Italie. C'est dans cette commune que le corps de l'étudiant de 27 ans a été retrouvé au fond d'un ravin dimanche soir. On attend par ailleurs les conclusions de l'autopsie de son corps. Elle devrait être rendue demain et éclaircir les circonstances de sa mort. La crise en Italie, la coalition au pouvoir a bien explosé de façon officielle aujourd'hui avec la démission de Giuseppe Conte, le premier ministre italien. L'Italie qui ordonne le débarquement des migrants à bord de l'Open Arms sur l'île de Lampedusa. Une centaine d'entre eux est à bord du navire humanitaire depuis 3 semaines. Le procureur d'Agrigente ordonne aussi la mise sous séquestre du navire.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Nicolas Creusel.
Avec, pour cette dernière partie des informés ce soir, toujours avec nous, Sophie Fay, journaliste à l'Obs, Jean-Daniel Lévy d'Aris Interactive et Jérôme Ripoul, le coprésident d'Opinion Valley. On va revenir en France après cette longue parenthèse diplomatique et politique italienne pour évoquer la rentrée scolaire. C'est dans moins de 2 semaines et c'est aujourd'hui que les familles concernées ont reçu l'allocation de rentrée qui est versée par les caisses d'allocation familiale. Une allocation qui nous a été présentée comme étant revalorisée de 0,3% alors que le coût de la rentrée, lui, augmente de 1% selon Famille de France. Donc, On a des allocations qui vont de 368 à 400 euros environ par enfant suivant les âges. Mais si elles augmentent moins que ce que le coût augmente, ça veut dire qu'elles baissent mécaniquement. C'est un petit peu embêtant quand même, parce que c'est pas facile d'avoir besoin d'une allocation pour boucler le budget de la rentrée. Jérôme Ripoul.
Bon, alors, sur les chiffres sont un peu plus contrasté que ce que vous le dites.
Bah, c'est-à-dire, j'ai résumé.
Oui, voilà, c'est ça. En clair, suivant. Non, mais vous avez bien fait. Je vais repréciser. Donc, en fait, l'allocation est de 300, précisément 390 euros. À son niveau le plus haut, puisque suivant que vous rentrez ou pas dans les critères de revenus, vous avez une allocation complète ou pas, par enfant donc. Et que suivant le niveau scolaire de l'enfant, la classe, la rentrée, le coût varie entre 355 et 400 euros. Ouais. Donc globalement, on doit rentrer dedans. Hein. C'est quand même 2 milliards d'euros, hein, l'ensemble de l'enveloppe, plus de 2 milliards d'euros. Une allocation finalement, oui. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est à quoi sert-elle ? Est-ce qu'on est absolument sûr qu'elle est complètement dédiée à la rentrée des enfants ?
Ah ben ça, c'est sûr qu'on va pas fliquer chaque parent qui reçoit.
On pourrait imaginer qu'il y ait les chèques soient dédiés uniquement pour
sauf que ce soit des bons d'achat,
exactement, des bons
fournitures
d'achat
scolaires ou de vêtements.
Moi, je trouve
de vêtements, parce que les vêtements, ça rentre aussi dans.
C'est vrai, c'est exact, c'est exact.
Sophie fait.
Ça avait été envisagé à un moment. Nadine Morano avait demandé qu'on fasse l'étude, et finalement, on voyait que ça rajoutait un surcoût de 30 millions d'euros et que.
Maintenant, je tombe plus.
Ça ne garantit.
Oui,
ça entrave les familles, ça complexifie tout et ça facilite pas forcément le.
Non, mais il y aura toujours des gens qui abusent et qui prennent les sous pour faire autre chose.
Mais
il y a des gens qui ont vraiment besoin.
Cet abus n'est pas évident. J'ai demandé au réseau Fnac Darty, par exemple, s'ils voyaient un pic de vente, parce qu'on dit toujours que les gens s'achètent des écrans plats avec cette allocation. Ouais. S'ils voyaient un pic de vente des télévisions après le versement de cette allocation, alors c'est absolument pas le cas. En revanche, ils voient un petit pic dans l'équipement, mais c'est plutôt le petit électroménager pour équiper les studios des étudiants. Et puis, ils voient effectivement un pic dans l'équipement informatique, les PC, les imprimantes, et dans la téléphonie, puisqu'on voit que même si le téléphone est maintenant interdit à l'école, la plupart des parents, les trois quarts d'entre eux, pensent que la sixième, c'est le bon moment pour acheter un téléphone portable aux enfants. Donc, ça ne devrait pas rentrer dans le budget, mais ça rentre quand même un peu. Ce qui est intéressant sur cette sixième, c'est que c'est un peu l'année de tous les dangers, parce que c'est l'année où les enfants grandissent, c'est l'année où il faut renouveler pas mal les équipements sportifs,
ils grandissent
à la rentrée,
en taille aussi, vous voulez
ils grandissent
dire,
en taille,
il faut
voilà,
aussi racheter voilà. des chaussures et voilà. des pantalons et tout ça.
Et ce qui coûte très cher, c'est ces équipements sportifs, et c'est dans ces équipements sportifs que les parents ont le plus de mal à lutter contre les marques, contre le phénomène des marques.
Oui, et la concurrence de mon copain, il a Adidas, Nike ou Reebok,
voilà.
Et moi j'ai la marque.
Quand vous voyez qu'un maillot de l'équipe de France de foot coûte 140 euros, c'est vrai que ça peut poser certains conflits
familiaux. C'est pas nouveau comme débat.
Donc c'est peut-être plus le problème du prix du maillot de foot qui est posé que celui du prix de l'allocation de rentrée scolaire.
Jean-Daniel Lévy.
Ce qui est intéressant, c'est que souvent les Français sont assez critiques à l'égard de la manière dont certaines populations peuvent abuser entre guillemets des aides sociales. On est profondément attaché au système de solidarité en France, mais assez critique à l'égard de ceux qui peuvent d'une manière ou d'une autre.
On regarde toujours dans l'assiette du voisin. Excusez-moi, c'est très français aussi.
On va souvent regarder les comportements qui peuvent être les comportements à la marge et qui sont pas forcément majoritaires, mais quoi qu'il en soit, une fois qu'on a dit ça, sur les principes généraux, on reste encore en France extrêmement attaché au fait que les catégories populaires, les personnes qui sont les plus en difficulté, puissent être aidées et puissent avoir cette forme de coup de pouce dans le cadre notamment de la rentrée scolaire. Donc effectivement, il y a ces comportements qui sont mis en avant et qui sont parfois critiqués là par des Français, mais le principe général qui est de dire il faut aider globalement les personnes qui sont les plus en difficulté. L'éducation constitue un point qui est absolument central. Il est normal, entre guillemets, que les enfants qui sont issus de catégories populaires puissent avoir accès à la connaissance ou puissent avoir moins de difficultés que les autres pour pouvoir avoir accès à un certain nombre de biens équipement globalement est apprécié. On peut se rappeler que le moment en fait où le président Laplique avait parlé du pognon de dingue en parlant des aides sociales, alors c'était pas uniquement lié à la rentrée, mais d'un point de vue général, il y avait eu d'un point de vue d'opinion, il y avait non seulement un volet une montée de bouclier, mais également dans un même élan une très forte désapprobation de ses propos de la part des Français et pas uniquement de la part des catégories populaires, c'est-à-dire même ceux qui étaient exempt aujourd'hui d'aide sociale, quelle qu'elle soit, considérait que malgré tout, ça faisait partie de notre collectif et de notre manière dont la France peut se définir.
De l'État-providence à la française, du système un peu...
Oui, et de cette aspiration, à la solidarité.
On nous dit que l'école est gratuite en France. On voit bien que dans le quotidien, elle n'est pas gratuite. Elle est gratuite et obligatoire, mais dans les faits, c'est pas si évident. Puis peut-être que cette allocation peut servir aussi, si ce n'est pas à acheter des cahiers ou des livres, à inscrire aussi les enfants, je ne sais pas, à une activité culturelle, sportive, hors de l'école, qui coûte aussi. Le mois de septembre, on sait que c'est le mois des inscriptions, c'est un mois très difficile pour les familles.
Mais c'est vrai. Mais cela étant, je pense que le vrai problème, vous avez tout à fait raison, on est tous, je pense, une large majorité de Français sont favorables à cette aide. Je pense que la difficulté ne se fait pas au niveau aujourd'hui du lycée et du collège, mais au niveau du supérieur. Là, il y a de vraies inquiétudes. C'est-à-dire la rentrée des étudiants...
Là, oui, parce qu'il faut payer un logement quand on n'habite pas dans une grande ville.
Et là, les organisations étudiantes ont soulevé plusieurs problèmes, et notamment le fait qu'il va y avoir une réforme de l'APL, de
l'allocation de logement.
Et donc, ça risque quand même de poser problème sur certains étudiants qui sont, puisqu'on sait quand même que certains étudiants ont des moyens très 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 faibles.
Allez, on arrive au bout de l'émission. Je voudrais vous laisser quelques secondes, Sophie Fay, pour que vous nous donniez les unes de l'Obs, parce qu'on est au milieu du guet là.
On est au milieu du guet. On vient en kiosque en ce moment. Vous avez un numéro spécial sur quand la France occupait l'Algérie, un numéro historique avec des papiers formidables sur cette période. Et aujourd'hui, on vient de boucler le prochain numéro. Qui est consacré à l'amour, l'amour qui n'a pas d'âge, avec de belles histoires, de beaux témoignages sur ce qui se passe après 60, après 70, après 80 ans.